Shalom, bonjour. L'éditorial de Marc Brutowski pour Les Akele et Ashkel Info est lu par Ashkel. L'Iran joue aux échecs avec l'argent US sous les plaques tectoniques de l'hiver arabe. Les représentants de l'Amérique profonde, les membres du Congrès, semblent tout juste s'éveiller d'une somnolence aussi dispendieuse que dangereuse. Lundi dernier, la presse a dévoilé un projet de loi qui consisterait à bloquer toute aide à un pays qui n'agit pas concrètement contre le terrorisme. Elle concernerait surtout le Liban, l'Égypte, le Pakistan et l'autorité palestinienne. Si ce projet peut être rejeté par le Sénat, dominé par les démocrates, il constitue un défi majeur à l'angélisme de la main tendue qui prévaut à la Maison-Blanche depuis l'avènement d'Obama. La logique de ce texte est assez simple pour qu'on s'interroge sérieusement. Pourquoi n'a-t-il jamais été proposé comme condition sine qua non de tout engagement politique et militaire américain auparavant? En effet, parallèlement à des guerres coûteuses et au soutien à des États douteux, le département du Trésor n'a de cesse de traquer les entreprises qui font des affaires avec des entités ennemies, principalement l'Iran et ses alliés, Corée du Nord et Syrie. L'élimination d'Oussama Ben Laden dans sa luxueuse résidence fortifiée d'Abu Tabad a servi de révélateur. L'armée américaine peine à bâtir la moindre stabilité en Afghanistan, mais le pays voisin héberge et nourrit le terrorisme global qui conditionne cette présence internationale dans ses contreforts. Le torchon s'est mis à flamber entre le Pentagone et la Maison-Blanche lorsque celle-ci, sous la pression de la dette, a évoqué des coupes budgétaires sombres dans les caisses de l'armée. Or, la balance des dépenses et bénéfices penche du mauvais côté lorsqu'on fournit armes et bagages électroniques à des États comme le Pakistan ou le Liban, qui les emploient ensuite à tuer des marines et des alliés de l'Amérique. Quitte à restreindre un budget, ne faut-il pas d'abord s'en prendre au portefeuille des tueurs d'Américains plutôt qu'à celui de l'état-major censé les défendre? Le cas du Liban et de la prise de pouvoir progressive du Hezbollah sur l'armée libanaise et ses services de renseignement est, à ce sujet, paradigmatique. D'une part, le tribunal spécial sur le Liban soumet des mandats d'arrêt internationaux contre des hommes aussi dangereux que Mustafa Badreddin, l'un des principaux accusés dans l'assassinat de Rafik Hariri. De l'autre, Nasrallah poursuit son ascension à la tête du pays du Cèdre. Rarement, la justice internationale n'avait à ce point été objet de risée face à ces États semi-terroristes. Qu'importe, la France de Sarkozy et l'Amérique d'Obama n'oublient jamais de verser leur obol à des tueurs en série de cet acabit à coups de missiles hot et de matériel de contre-espionnage. Un incident récent entre les marines indiennes et pakistanaises en pleine manœuvre indo-américaine a rappelé cet axiome. Mieux, Islamabad, les poches pleines de précieux billets verts, a passé commande de 6 sous-marins chinois dans le dos de Washington. La guerre contre la terreur devient d'une prodigalité sans bornes, avec la politique du chèque blanc qui accompagne la main tendue. Quant au chantage à la déclaration unilatérale d'un État palestinien en septembre, c'est, pour les hommes de la colline du Capitole, la cerise sur le gâteau. Des années d'investissement dans les fameuses brigades Badr antiterroristes de Mahmoud Abbas, juste pour le plaisir de le voir s'aligner sur le Hamas pro-iranien et compromettre toute négociation future. La menace de suspension de son argent de poche devrait inciter l'enfant gâté de l'autorité palestinienne à repousser ce feu d'artifice final de quelques mois. Revenons à nos sanctions. Certains pays ennemis en font les frais sans que leur activité délétère ne semble réellement en souffrir. Ainsi, les 10 jours de manœuvre de mai dernier en Iran ont été l'occasion d'une débauche étalant de nouveaux armements balistiques. Les Shahab 3 et 4 menacent ouvertement les bases américaines en Afghanistan. Israël, le seul allié fiable dans la région, mais qu'on n'omet jamais de snober à coups de pression diplomatique. Les banques allemandes collaborent les yeux fermés à ce programme balistique qui permet à Téhéran de menacer Washington depuis le Venezuela, ou grâce au futur Shah Absinthe intercontinental directement depuis l'Iran. C'est sûrement dans ce contexte qu'il faut comprendre les assauts répétés des gardiens de la révolution contre le Kurdistan irakien. Les régions montagneuses que détiennent les Kurdes sont essentielles au contrôle de l'Irak. Elles permettent aussi de dominer le panorama de la scène moyenne-orientale lorsqu'on dispose de missiles perfectionnés, prêts à être tirés vers n'importe quelle cible, proche ou lointaine. Téhéran tente de perturber le nord, mais aussi le sud irakien vers Bassora, de façon à prendre la création politique post-Saddam en tenaille, alors que l'armée américaine s'en retire. À terme, Téhéran escompte être en mesure de bloquer le détroit d'Hormuz, où transite 40% du pétrole mondial, et faire chanter l'Occident à sa guise. Le Kurdistan, riche du pétrole de Kirkuk et Mossoul, est aussi ce couloir escarpé qui donne accès à l'est de la Syrie, le pays vassal d'Ahmadinejad menacé de déstabilisation. Les sanctions prises contre le tyran de Damas à cause de sa répression sanguinaire du peuple syrien n'ont pour l'instant eu qu'une incidence symbolique. Cela dit, il faut à Assad nourrir et approvisionner une armée sur le pied de guerre contre son peuple. L'ophtalmologiste syrien a envoyé son ministre Walid Moualem supplier Bagdad de lui offrir 150 000 barils de pétrole par jour pour pallier les pertes quotidiennes liées au désordre politique chez lui. Damas raffine 240 000 barils de pétrole par jour de son propre cru, mais dépend de la France, Hollande, Italie et Espagne pour le reste de son raffinement. La Syrie a dû opérer une coupe de 40% de sa production pétrolière. Malgré ses réserves monétaires, Assad doit demander une rallonge financière de 115 millions de dollars au Koweït s'il veut joindre les deux bouts du coup de la répression. Sous un discours policé, affirmant que la stabilité de la Syrie est essentielle à l'équilibre de la région, Nouri al-Maliki, l'Irakien, aurait confié à ses proches « J'ai passé ma vie à combattre un parti Baas, irakien de Sidam, jamais je ne soutiendrai l'autre Baas, syrien. » Le jeu est donc serré, alors que la démocratie irakienne relative semble pour le moment le seul pays arabe qui ne soit pas entraîné dans ce fameux printemps arabe. De maillon faible de la région, l'Irak apparaît encore comme la réussite posthume du président américain le plus haï du Moyen-Orient, George W. Bush. Les appétits hégémoniques iraniens sont réfrénés par plusieurs plats de résistance décidés à tenir tête au mollah de Qom. 1 200 000 Syriens déferlent dans les rues des villes principales de leur pays le 22 juillet pour défier le pouvoir vacillant de l'ami Bachar. Chaque semaine qui passe risque de devenir cruciale, sinon la dernière. Les Américains laissent aux Irakiens une situation à terme favorable et capable, si Dieu lui prête vie, de servir de contre-modèle à la révolution iranienne. De la même façon que, lors de la guerre froide, la RFA a servi de vitrine face à la RDA, avide et mal nourrie par le Gosplan soviétique. Le Congrès s'oppose à financer des danseuses comme le Liban, le Pakistan, père nourricier du Hezbollah et d'Al-Qaïda, ou l'Égypte et l'autorité palestinienne, dominée par les frères musulmans et le Hamas. Si l'Amérique de 2012 se ressaisit, il est probable que toute l'énergie et les vies humaines perdues dans la Pax Americana au cours de la décennie précédente ne l'auront pas été en vain. Il semble que cette nouvelle économie de la gestion des conflits soit le véritable enjeu des futures présidentielles aux États-Unis.